Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie pour le numéro de rentrée de votre magazine de l'actualité musicale classique, toulousaine et régionale. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Certains d'entre vous en auront sans doute profité pour assister aux nombreux festivals qui ont eu lieu dans notre région. Et d'ailleurs, cette période des festivals d'été n'est pas tout à fait terminée. Quelques-uns sont toujours en cours et d'autres vont commencer très prochainement. C'est le cas, par exemple, de Piano Jacobin, dont la 43e édition se tient cette année du 9 au 30 septembre. 16 concerts, 16 pianistes y sont programmés. Pour vous les présenter, je suis particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui Paul-Arnaud Péjouan, cofondateur et co-directeur artistique, avec Catherine Dargoubet, de ce festival parmi les plus anciens et les plus renommés du genre en Europe. À ses côtés, j'ai aussi la joie de retrouver l'ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est avec Serge que nous allons ouvrir cette émission en revenant sur l'actualité musicale récente. Vous connaissez tous cette rubrique, Retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Bonjour Serge et bonjour Paul-Arnaud, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous, d'être en votre compagnie pour ce numéro de rentrée de Mélomanie, et j'espère que vous aussi vous avez passé des vacances agréables. Serge, je sais que vous avez assisté à plusieurs concerts durant l'été, quelle surprise, et notamment au dernier de la saison de Musique en Dialogue au Carmélite, c'était dimanche, mais ce n'était pas seulement le dernier de la saison 2022, c'était le dernier tout court, puisque Catherine Kaufmann-Saint-Martin, la fondatrice et directrice artistique de cet événement, l'avait annoncé. Elle a décidé d'en rester là et de refermer une parenthèse ouverte il y a 5 ans à la chapelle des Carmélites. Bien sûr, il y avait beaucoup d'émotions pour cet ultime rendez-vous d'une saison à la formule originale qui marquera l'histoire, je pense, des concerts à Toulouse, Serge.
Oui, parce qu'il s'agit d'une entreprise originale, en ce sens que c'est un dialogue entre les notes et les mots, en quelque sorte, puisque ce sont des concerts-lectures qui associent ou un ouvrage ou un personnage et des musiques choisies en fonction du thème envisagé. Donc, il s'agissait effectivement, alors c'était le 28 août, au milieu de l'après-midi du dimanche, que donc ce point final à l'aventure de Musique en Dialogue aux Carmélites. Alors, on sait que le titre même est un clin d'œil à Francis Poulenc, Dialogue des Carmélites, évidemment. Bon, mais en plus, le lieu est magnifique. La chapelle des Carmélites, c'est une merveille. Donc, y a une certaine intimité. Ça a été vraiment une série d'événements vraiment intéressants. Alors, cette année, la 6e édition et dernière, donc, était consacrée aux grands mécènes de la musique. Et ça, c'est assez original, puisque il s'agissait d'évoquer le rôle de ceux qui ont soutenu des musiciens dans toute l'histoire de la musique. Il a été question de Tchaïkovski avec la Russe qui a soutenu Tchaïkovski, qui était amoureuse folle de lui, mais en pure perte, puisque Tchaïkovski n'était pas vraiment attiré par les femmes. Voilà. Et la dernière rencontre, en quelque sorte, était vraiment intéressante, puisqu'elle était consacrée à une généreuse américaine qui s'appelait Winaretta Singer, princesse de Polignac. Alors, elle était l'héritière de l'inventeur des machines à coudre, Singer, donc elle avait beaucoup d'argent.
Une des héritières, parce qu'il y avait des sœurs, mais bon, la fortune était tellement vaste qu'elle avait hérité d'une très grosse part, bien sûr.
Exactement. Et donc, elle est venue s'installer en France. Elle a épousé donc le prince de Polignac, Edmond de Polignac. Ils avaient en commun d'être tous les deux homosexuels. Donc c'était un mariage blanc parfait.
Mais ça marchait mieux que Tchaïkovski et sa généreuse mécène.
Exactement, exactement.
Eux, ils se sont jamais fâchés.
Non. Ça a été parfait. Et donc, cette rencontre donc, entre les textes et la musique, eh bien, elle était basée sur un ouvrage très intéressant, signé de Sylvia Kahan, un ouvrage intitulé « Winaretta Singer-Polignac, princesse, mécène et musicienne ». Et donc, nous avons eu un balayage chronologique de la vie de cette Winaretta, qui était une femme extraordinaire, incroyable, qui a aidé beaucoup d'artistes en France, et en particulier les musiciens qui étaient ses préférés. Elle a aidé Ravel, elle a aidé Rinaldo Hahn, elle a aidé...
Mais ils se retrouvaient tous, ils se croisaient salon.
Exactement, dans ses salons.
Elle faisait Forêt, Stravinsky aussi.
Vraiment salon. Gabriel Fauré, Eric Satie, oui, Stravinsky, dont elle a perçu la nouveauté avec le Sacre du Printemps et elle a été très impressionnée. Alors, les extraits de l'ouvrage de Sylvia Kahan étaient lus par Zazie Dlem, donc la comédienne, de manière excellente, avec intelligence et humour. Donc Zazie Dlem a lu des extraits de cet ouvrage et ces extraits étaient balisés donc par des pièces musicales, un grand nombre de pièces musicales qui sont soit évoquées dans l'ouvrage, soit qui ont été composées par des amis de
Tous ceux qu'on a cités précédemment, grosso modo.
Alors, pour la partie musicale, il y avait deux grandes artistes, la soprano Françoise Masset, à la voix claire et lumineuse, une vraie diseuse, donc c'est vraiment ce qu'il fallait, et qui chante en souriant, ce qui est agréable, un sourire qui s'entend autant qu'il se voit, et puis la pianiste Anne Lebozec, qu'on connaît bien.
Qui a la classe d'accompagnement au CNSM à Paris.
Exactement.
Qui a formé d'ailleurs beaucoup des chanteurs et chanteuses lyriques actuelles.
Oui, oui.
C'était Marc Moyon avec qui elle a fait un disque.
Oui.
Et aussi Eva Zaïcik et quelques autres.
Oui. C'est une grande musicienne, et donc toutes les deux ont illustré musicalement ce propos de Winnaret. Donc on a eu droit à, ça a commencé par Gabriel Fauré, je ne vais pas tous les énoncer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais ça s'est ouvert sur Mandoline de Gabriel Fauré, cette mélodie pleine de fantaisie, de finesse, de légèreté. Il y a eu du Reynaldo Hahn, du Edmond de Polignac.
Oui, lui-même a composé.
Edmond était compositeur, un peu dilettante, mais c'est très intéressant ce qu'on a entendu. Il y a notamment une mélodie qui s'appelle Lamento, vraiment pleine de charme. Et puis Ravel.
Alors
on a eu comme Ravel une pièce pour piano seul. Et cette pièce pour piano seul, elle est bien connue, c'est la pavane pour une infante défunte, qu'a magnifiquement joué Anne Lebozec. Et puis il y a eu même une pièce de la nièce d'Edmond, Armande de Polignac, du Poulenc, du Louis Vierne.
Oui.
Et donc on n'entend pas souvent des mélodies de Louis Vierne, on entend surtout sa musique d'orgue, et puis même du Jean-Sébastien Bach. Oui, alors elle n'a pas reçu Jean-Sébastien Bach dans ses salons, évidemment, Winnaret, mais elle a évoqué Johann Sebastian Bach comme étant une sorte de référence absolue pour elle.
Oui.
C'est évident, il n'y a pas que pour elle.
Il n'y avait pas du Nadia Boulanger aussi?
Si, il y avait une pièce, une chanson, elle s'appelle Chanson d'ailleurs, de Nadia Boulanger, il y avait du Georges Auric, du Darius Milhaud, du Francis Poulenc.
Ils étaient presque tous là. Hein.
Oui, presque tous. Et puis du Stravinsky, alors un volet de Stravinsky qu'on ne connaît pas bien, puisque c'est plein d'ironie, de finesse, une pièce qui s'appelle Intérieur, une autre qui s'appelle Dodo, et qui fait Dodo l'enfant d'eau, donc vous voyez un peu, et puis une autre qui s'appelle Tilimbom, que je ne connaissais pas, donc il y a eu des découvertes, vraiment un excellent moment dans cet après-midi du dimanche, qui s'est achevé par de nouveau une œuvre d'Edmond de Polignac, qui s'appelle À un prince exilé, et puis comme le public a été extrêmement chaleureux, les trois dames qui étaient là sont venues donner un bis de Stravinsky encore, qui s'appelle Le chat. Alors, c'était un clin d'œil à Catherine Kaufmann-Saint-Martin, qui est une fanade des chats. Pour la remercier, ces trois interprètes ont conclu cette dernière rencontre par le chat de Stravinsky.
Je confirme que Catherine Kaufmann-Saint-Martin est une grande amoureuse des chats.
Oui.
Nous allons écouter encore une fois Françoise Masset qui chante ici La Balançoire. C'est une mélodie de Reynaldo Hahn, accompagnée au piano comme il se doit par Anne Lebozec.
Oh,
La balançoire, mélodie de Reynaldo Hahn, chantée par la soprano Françoise Masset, accompagnée par la pianiste Anne Le Bozec. C'était donc dimanche le dernier concert de musique en dialogue au Carmélite et le baisser de rideau pour cette saison fondée et dirigée par Catherine Kaufmann-Saint-Martin. Nous tenions à lui rendre hommage dans cette émission où elle a souvent été invitée et où elle reviendra parce que Catherine va bien sûr rester très active dans le milieu musical, entre autres auprès des passions de Montauban. Serge, vous vouliez aussi dire un mot d'un concert auquel vous avez assisté le 23 juillet dernier à l'église de Bagnères-de-Luchon. C'était un concert donné par l'organiste toulousain bien connu Michel Bouvard, avec un programme entièrement dédié à César Franck. César Franck, dont nous allons célébrer le bicentenaire de la naissance en décembre 2022.
Eh oui, alors on pouvait se poser la question, mais pourquoi diable donner un récital à Bagnères-de-Luchon? Eh bien tout simplement parce que l'église... très belle d'ailleurs, Notre-Dame de l'Assomption de Bagnères, eh bien, est équipée d'un grand orgue Cavaillé-Coll. Or, César Franck, son œuvre pour orgue, elle a été inspirée quand même par le grand facteur d'orgue Cavaillé-Coll de la fin du 19e. Hein. Et donc, c'était vraiment très logique que ça se passe là. Et donc, Michel Bouvard a donné quelques œuvres de César Franck, avec notamment le fameux prélude Fugue et Variation, peut-être l'œuvre la plus célèbre, puis des pièces, des fantaisies, cantabilées, pièces héroïques, magnifiques pièces héroïques, et un des chorales, le premier choral en mi majeur, qui était donné donc sur ce bel orgue Cavaillé-Coll. Alors, à propos de Cavaillé-Coll, il faut préciser que Michel Bouvard a enregistré l'intégrale de l'œuvre pour orgue de César Franck et il l'a enregistré évidemment sur le Cavaillé-Coll de la basilique de Saint-Servin de Toulouse, évidemment.
Dont il est titulaire.
Alors cet enregistrement va sortir vers la fin du mois de septembre. C'est vraiment un enregistrement que j'ai eu le privilège d'écouter, qui est très beau et qui est très bien enregistré, très bien interprété.
Bon, alors, sachant qu'il avait déjà enregistré un CD Franck il y a quelques années, mais qui n'était pas évidemment une intégrale. Hein. Le programme était intitulé à Luchon vers un bicentenaire, pour ceux qui n'étaient pas au courant.
Oui.
Voilà, et donc je propose qu'on écoute un extrait du CD précédent enregistré il y a quelques années. C'est le début du troisième choral de César Franck, interprété par Michel Bouvard. Le début du troisième choral de César Franck, interprété par Michel Bouvard sur le Cavaillé-Coll de Saint-Servin, c'est un extrait du CD qu'il avait consacré à une partie de l'œuvre pour orgue du compositeur franco-belge. Serge, vous vouliez préciser quelle était l'association organisatrice du concert à Bagnères-de-Luchon.
Voilà, il s'agit d'une association qui s'appelle les Voix de l'Orgue Cavaillé-Coll de Luchon, donc consacrée à cet instrument vraiment magnifique, hein, très beau. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que celui de Saint-Servin à Toulouse, l'église du Jésus possède un petit Cavaillé-Coll, très petit comparé à celui de la basilique Saint-Servin, mais qui est très beau aussi. Donc c'était vraiment un grand facteur d'orgue qu'on ne pouvait pas ignorer à l'époque.
Et c'est donc avec Cavaillé-Coll que nous terminons cette première partie d'émission, une courte virgule musicale avant de retrouver dans quelques secondes Serge Chosy et Paul Arnaud Péjouan, notre invité d'honneur, pour évoquer la programmation de la 43e édition de Piano Jacobin. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
la suite de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, donc Paul-Arnaud Péjouan, cofondateur et co-directeur artistique de Piano aux Jacobins, dont la 43e édition a lieu du 9 au 30 septembre. 43e festival donc, mais je crois pouvoir dire que c'est le premier depuis 3 ans qui va se dérouler sans contrainte ni restriction sanitaire. Vous confirmez, Paul-Arnaud?
Oui, bien sûr. Il était temps, je dirais. Encore qu'un tout petit bémol, parce que nous ne sommes pas revenus aux jauges qu'a connu le festival pendant 39 ans, à savoir qu'une obscure norme européenne pour 15 cm de largeur de la porte donnant sur le parvis du lycée Fermat ne nous permet pas...
Les issues de secours nous a supprimé
350 personnes. Donc, je me souviens, moi, de concerts, notamment du concert...
Il y avait 700 personnes.
700, des concerts à 1000, Exifra 1200 personnes, 400 personnes debout dans le cloître. Donc, bon, alors, c'était des concerts exceptionnels ou des concerts Leonskaya. Bon, mais je pense quand même que le cloître pouvait accueillir parfaitement en toute sécurité 900 personnes avec les ailes du cloître. Bon, c'est ainsi, mais on est bien sûr très heureux de revenir à une jauge normale et surtout sans restriction de masque.
Pas de distanciation, pas de masque, voilà. Pas de passe sanitaire, évidemment. Merci. Voilà. Et on va enfin pouvoir profiter de ce lieu magnifique et de la musique qu'on y entend en toute quiétude. Pour la programmation, toujours la même recette, fidèle à la vocation et à l'esprit du festival. Des légendes du piano, des valeurs sûres, des habitués et de petits nouveaux, la génération montante du clavier, parce que Piano Jacobin, c'est aussi, peut-être même surtout, un tremplin pour les futurs grands de cet instrument. Et il y a eu de nombreux exemples depuis 1980, Paul-Arnaud.
Absolument. Et là, je voudrais, sur cette édition, rendre hommage à Catherine Dargoubet, qui a fait... comme l'année dernière et comme par le passé, mais qui rajeunit, je ne sais pas si elle rajeunit elle, mais elle rajeunit les programmations du festival. Elle prend beaucoup de risques et j'en suis totalement heureux parce que nous présentons chaque année davantage de jeunes. Et ce qui est très important, c'est que le public nous suit. Alors bien sûr, nous n'avons pas une jauge de 1000 personnes, mais on a quand même 500 personnes au total. Et c'est vraiment très, très extraordinaire de voir que, par exemple, pour la jeune japonaise qui va débuter le festival 9 septembre, on a un niveau de réservation qui est très légèrement inférieur à des légendes du piano. Donc le public sait qu'au Jacobin, il y a cette prise de risque de la jeunesse. Catherine a fait des programmations remarquables toutes les années précédentes et il vient en confiance. Donc je crois que ça, c'est important. Et cette année aussi, une petite touche féminine en plus, c'est très à la mode. J'allais dire que ça a presque un côté d'injonction, mais
Peut-être en parlerons-nous
de ça. Voilà, mais là, vraiment, c'est une formidable génération de jeunes pianistes féminines et notamment de jeunes pianistes féminines de l'école française, et on est très, très heureux de les présenter dans cette édition.
Cette formidable école française du piano
Bien sûr. Qui
remonte à très loin et où il n'y a jamais eu, en fait, de passage à vide, je crois. Alors, un mot sur les pianistes de légende qui sont venus au festival, parce que certains sont venus non seulement au crépuscule de leur carrière, mais pour certains même au crépuscule de leur vie, jouer au Jacobin.
Bien sûr.
Je pense à Orchowski, par exemple.
Orchowski, que j'ai eu le privilège d'aller chercher à l'aéroport de Blagnac avec Catherine, avec une vieille Mercedes de collection que j'avais à l'époque, qui était un peu plus jeune que lui quand même, donc il avait 98 ans. Et on l'amène en voiture avec Catherine, donc, à son hôtel dans le centre, et il était avec sa gouvernante, son accompagnante, quoi. Et il me dit, d'une petite voix très légère, il me dit... Toulouse, c'est pas très loin de Carcassonne. Je dis non, c'est une heure de voiture. Ah oui, je me souviens parce que je crois que j'y ai joué en 1912. Et là, j'ai failli avoir un accident de voiture. J'ai failli freiner brutalement.
Non mais
parce que ça a obligé à faire un schéma, une espèce de flashback énorme en arrière. Non. Et ça, on sera, bien sûr, il a été enfant prodige. Mais donc, oui. Il a fait des tournées en Italie, en France, en Espagne, quand il avait 12 ans.
C'est extraordinaire parce que ça veut dire que sont venus au festival des Jacobins, à Piano Jacobin, des pianistes qui étaient issus du 19e
bien
siècle.
Sûr,
du
bien
19e
bien
siècle.
Sûr, bien sûr.
Qui avait commencé, je veux dire, pas bien seulement sûr. Qui était né, mais qui avait commencé au 19e.
Non, mais Orchowski, c'était un monument à l'image de la cité de Carcassonne. Mais
bien sûr.
C'est incroyable.
Mais, et il a fait un concert. Bon, on l'a mis à l'Allograin pour des raisons évidemment climatiques, parce qu'on ne pouvait pas prendre le le risque d'un soir d'orage ou autre, mais il était absolument délicieux et il a fait un concert où il y avait une émotion incroyable. Enfin, le public a été emporté par... C'était vraiment des moments comme le concert, autre moment historique du festival, mais lui était en pleine forme, quoi qu'il soit mort peu après, mais c'était Gheorghi Gzifra qui a accepté de jouer un soir où il faisait 16 degrés dans le cloître après, ce qui est rarissime parce que septembre est toujours plutôt clément à Toulouse. Et un quart d'heure avant le concert, il nous dit « je crois que je ne vais pas pouvoir jouer », etc. Et c'est ce fameux concert dont je parlais tout à l'heure, où les gens me suppliaient de rentrer, donc on faisait rentrer des gens debout, plus de 1000 personnes dans le cloître, des gens debout. Je dis « mais maestro, ça va être pas possible ». Est-ce que je peux jouer avec un pull au vert sous le... Mais bien sûr. Et il a fait un concert extraordinaire.
Gzifra, il faut se rendre compte quand même de qui était ce monsieur.
Mais bien sûr.
Pour ma part, j'ai le souvenir aussi de Vlado Perlmutter.
Ah, oui, Perlmutter.
Quel grand monsieur. Quel grand monsieur.
Qui lui avait connu Ravel.
Oui. Et Serge Choura-Cherkassky.
Eh oui,
le délicieux Choura-Cherkassky, extraordinaire aussi. On a eu, c'est vrai, c'est très important, on a eu quand même pratiquement... toutes les grandes légendes du XXe siècle jacobin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, permettre à cette jeune génération de s'exprimer dans cette histoire légendaire, c'est formidable.
Alors, elle se prolonge un peu, cette partie du festival où les légendes ont leur place. Dans la programmation 2022, il y a deux musiciens qu'on peut, je pense, qualifier un peu de légende vivante du piano tout de même. Deux habitués du festival où ils ont souvent été invités, l'Allemand Christian Zacharias et l'Espagnol Joaquín Achucarro, qui aura bientôt 90 ans.
Oui. Ben oui, c'est, je crois même, sous réserve, que c'est l'année de son 90e anniversaire.
Ah, mais je confirme.
On est allé au Japon l'accompagner, parce qu'il était, il avait été invité par Piano Jacobin à l'époque, on faisait nos tournées en Chine et au Japon. Il avait accepté de venir jouer dans le cadre de Piano Jacobin au Japon. Et je me souviens que, c'était il y a 5 ans, je pense, il faisait 25 km de vélo par jour et 3 après-midi de piscine. Donc, il est assez stupéfiant.
C'est un basque espagnol, donc il aime le vélo.
C'est un basque...
Il est Bilbao.
Absolument. Non, donc 90 ans, en pleine forme. On l'a invité plusieurs fois. Ça fait partie des pianistes qui ont été un petit peu oubliés en France.
Oui.
Et que Piano Jacobin est très heureux, je pense, d'avoir, pas réhabilité, parce qu'il n'a pas besoin d'être habilité, Joaquín Achucarro, mais donné peut-être une lumière méritée.
Et il adore la France, en plus, et la musique française,
absolument.
Et les compositeurs français. D'ailleurs,
absolument.
Souvent, moi, je l'avais vu il y a 3 ans, il était venu, quelque chose comme ça, en bis, il avait joué une pièce de Claude de France. En parlant de Debussy, il avait joué Claude de France. Hein, voilà. Donc, Joaquín Achucarro, spécialiste, entre autres, de Brahms, de Ravel et de Rachmaninov, joue le 22 septembre, à 20h, au Cloître des Jacobins, programme Mozart, Chopin, Liszt, Rachmaninov, bien sûr, et Scriabine. Et puis donc, Christian Zacharias, lui, il a 72 ans, c'est encore un gamin.
C'est un gamin, oui, on peut le dire.
Lui, alors, pianiste et chef.
Oui, une carrière de chef de plus en plus importante aujourd'hui, c'est pourquoi on est très heureux. Peut-être que ça sera, enfin, il a dit à Catherine, ce sera peut-être un de ses derniers récitals de piano, parce qu'il veut vraiment maintenant
se consacrer à la direction.
Voilà, se consacrer à la direction. Il a une relation très privilégiée avec Catherine, une véritable amitié depuis des années. Et il a d'ailleurs invité Catherine dans le concours Clara Askill, qui était membre du jury en 2020, l'année dernière, en 2021. Et donc, on est vraiment très heureux qu'il nous fasse ce cadeau de revenir en récital. Et c'est vraiment une émotion pour nous. Je n'ai pas le chiffre en tête exact, mais je pense que ça va faire 7 ou 8 fois que Christian Zacharias fait partie des grands piliers du festival.
Ouais. Oui, mais il a beaucoup joué. Et même dirigé à la Hallograin. D'ailleurs, pendant la saison qui s'ouvre de l'Orchestre National du Capitole, il viendra au cours d'un concert comme invité pour à la fois jouer du piano et diriger.
Et diriger. En général, il fait toujours les deux quand il vient.
Voilà.
Donc là, il jouera le 14 septembre, à 20h bien sûr, au Cloître des Jacobins, programme où l'on trouve la 17e sonate de Schubert et les saisons, les fameuses saisons de Tchaïkovski.
Rarement jouées dans leur intégralité en concert.
C'est vrai. Souvent, c'est des extraits qu'on joue. Donc on a souvent la chance, on vient de le dire, d'entendre Christian Zacharias à Toulouse, mais c'est moi le cas, de Joaquín Achucarro. Donc je propose qu'on écoute maintenant le grand pianiste espagnol dans une interprétation d'un de ses compositeurs de prédilection, Serge Rachmaninov, dont il joue ici le prélude opus 3, numéro 2. Thank you. le prélude opus 3 numéro 2 de Serge Rachmaninoff, interprété par Joaquín Achucarro, l'une des pièces au programme du concert que donne le grand pianiste espagnol au cloître des Jacobins jeudi 22 septembre à 20h. La jeune génération maintenant, on l'évoquait donc tout à l'heure, elle est encore très bien représentée cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, comme le veut la tradition de piano jacobin, avec notamment plusieurs jeunes musiciennes. Là aussi, vous l'évoquiez. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Ou est-ce que c'est une volonté aussi
non,
de la
je
part
pense que, je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense aussi que c'est une génération brillante. Donc, c'était aussi l'occasion de... Comme nous le disons souvent avec Catherine, nous n'avons pas un festival qui ratisse large, entre guillemets. Je ne vise personne. On ne fait pas 90 concerts en 3 semaines. On fait 15 concerts. Donc, évidemment, qu'on ne peut pas inviter tous les pianistes qu'on aime et on ne peut pas inviter tous les pianistes qu'on voudrait faire découvrir. Les musiciennes dont vous parlez qui vont jouer cette année, certaines, ça fait 2 ans, 3 ans, qu'avec Catherine, dit « Ah ben, elle va... » Bon, et puis ça ne se fait pas, il y en a une qui est en tournée en Allemagne, etc. Voilà. Donc, on est vraiment très heureux que ça se passe cette année de cette façon-là et qu'on ait à la fois cet ensemble de musiciennes françaises et aussi des Yumeka Nakagawa.
On va parler des toutes jeunettes, voilà, justement, voilà, parce que c'est Yumeka Nakagawa,
ans,
là,
21 ans.
Là, même pas 21 ans.
Elle a gagné le concours.
Donc, qui fait l'ouverture le 9 septembre.
Qui fait l'ouverture, hein, absolument.
À 20h, bien sûr. Vainqueur du prix Clara Skill de l'an dernier.
Oui.
S'il vous plaît. A priori, quand même, ça classe déjà un petit peu un ou une pianiste, hein, quand on a gagné le prix Clara Skill. Elle va jouer un programme Schubert, Berg et Liszt. C'est pas un programme facile, en plus.
Ah non, cette sonate de Berg, qui est une merveille, vraiment.
C'est très difficile.
Très dur, mais très belle. Hein,
voilà, elle n'a pas choisi la facilité. Salomé Jordania, alors elle, j'avoue, je ne la connaissais pas. Géorgienne, mais formée aux États-Unis.
Oui.
22 ans, très très jeune également.
Juilliard School, produit de la Juilliard School.
Voilà, produit de la Juilliard School.
Bon, déjà, on sait que, bon, on connaît les processus de sélection.
Voilà, les papiers sont en règle, comme disait l'autre.
Les papiers sont en règle.
Beethoven, Gounod, Liszt, Schumann et Brahms. Mm-hmm. Ça sera le mardi 13 septembre. Et puis, alors elle, je me demande si elle n'est pas déjà venue, Natalia Milstein, qui a 27 ans. Française d'origine russe, comme son prénom l'indique
beaucoup.
Qui va jouer un programme Debussy, César Franck.
Après le fameux prélude chorale et fugue.
Voilà, Tchaïkovski et Schubert le jeudi 15 septembre. Donc voilà pour les jeunes musiciennes qui n'ont pas encore 30 ans. Pour vous donner un aperçu des talents de ces jeunes femmes, cette jeune génération de femmes pianistes, nous allons écouter justement Natalia Milstein. Elle interprète ici le fameux Clair de Lune, pièce extraite de la suite bergamasque de Claude Debussy. Clair de Lune, extrait fameux de la suite bergamasque de Claude Debussy interprété par Natalia Milstein. C'est une des œuvres au programme de son concert du 15 septembre au cloître des Jacobins. Il y a deux autres femmes pianistes dans la programmation 2022, deux françaises d'une autre génération, Marie Vermelin et Aline Piboul, qui elles ont passé la trentaine, ce sont encore de jeunes femmes tout de même, deux très bonnes musiciennes qui proposent des programmes très originaux, chacun dans leur genre, Paul Arnaud.
Oui, alors le programme, alors on va dire, c'est encore dans l'air du temps, mais là c'est différent, c'est un projet musical de longue date, qui a été défendu par la Fondation Brouzane pour la musique française, et c'est Marie Vermelin qui va défendre trois compositrices françaises. J'avoue que je n'en suis absolument pas le spécialiste, donc je parle sous l'autorité de Serge Sozzi, Virginie Morel, Charlotte Sohi et Mel Bonis, maintenant, qui commence à être beaucoup plus jouée. Depuis 3-4 ans, qui est programmée un peu plus que ses concerts.
Charlotte Sohi, c'est une redécouverte toute récente et remarquable. Très intéressante.
Je pense que ce sera un concert formidable, et c'est tout à l'honneur de Marie Vermelin de défendre ce type de répertoire, qui plus est de musique française et de musique française compositrice, évidemment.
Effectivement, et donc il y a eu un CD financé sans doute par la fondation Palazzetto Bluzzane, auquel a participé Marie Vermelin, mais pas seulement, il y a d'autres jeunes musiciennes pianistes françaises, notamment Célia
Onetto Ben Saïd. Plusieurs fois invitée par le festival et qui nous a accompagnés au Japon et en Chine aussi.
Avec donc les musiques de Mel Bonis, de son vrai prénom, Mélanie Bonis. Elle a été élève de César Franck, justement.
Et voilà.
Et de Charles Quéclin. Et Charlotte Sohi, elle, c'était une élève de Louis Vierne et de Vincent Dindy. Alors, j'avoue, je ne la connaissais pas du tout. Elle est vraiment ressortie complètement d'oubli. Et il y a des choses magnifiques dans l'œuvre de cette compositrice. Et puis donc, Virginie Morel du Verger, parce que je trouve que le nom complet, c'est Virginie Morel du Verger. Elle avait été maîtresse de piano de la duchesse de Berry, tout de même. C'est vraiment le 19e.
Qui avait un piano de voyage absolument somptueux que j'ai eu le bonheur de découvrir chez un antiquaire à Rome.
Et on fait de l'histoire en même temps, oui, c'est passionnant.
Qui m'a montré ce piano avec un tableau peint à l'intérieur du tableau somptueux. Et elle était très bonne musicienne, elle voyageait avec un petit piano de voyage, quoi, comme une épinette. C'est très étonnant.
Voilà, alors moi je trouve ce programme passionnant, vraiment. Hein, hâte de le découvrir. Et donc Aline Piboul, elle, je crois que c'est la première fois que vous l'invitez.
Oui.
Bon, c'est pareil, c'est une musicienne qui aura à peu près 35 ans, hein, je ne sais pas exactement. Elle ne va pas jouer au Jacobin, contrairement à Marie Vermelin. Elle va jouer à Altigone, parce qu'il y a quelques concerts qui sont délocalisés, si on peut dire, dans la métropole toulousaine. Donc à Altigone, à Saint-Orens, le dimanche 25 septembre à 16h. Marie Vermelin, c'est le 21 septembre. J'ai oublié
collaboration qui dure depuis 6 ans maintenant avec Saint-Orens.
Voilà.
Et on est très heureux de cette continuité.
Alors, très joli programme, Aline Piboul, parce qu'il y a le Tombeau de Couperin de Ravel, qui est une œuvre magnifique, mais ça qu'on connaît. Il y a une œuvre d'un certain Cyril Scott, qui est un Britannique,
très peu connu
du XXe siècle. Et Louis Aubert, une œuvre de Louis Aubert, dont le titre est Sillage. Alors lui, il est mort en 1968, donc il a traversé un peu le début du XXe siècle jusqu'en 68. Et lui, il faut savoir que c'était un excellent pianiste, qui composait, je pense, peut-être un peu plus à ses heures perdues, mais que c'est le créateur des valses nobles et sentimentales de Ravel, tout de même.
Ah, d'accord.
Donc ce qui laisse entendre que ça devait être un très très bon pianiste, je pense.
Certainement.
Voilà, donc il y aura encore des découvertes, parce que Cyril Scott, moi j'avoue que je ne connaissais pas du tout. C'est un programme, deux programmes, vraiment deux découvertes. Il faut qu'on écoute une pièce d'une compositrice dans cette émission. Emel Bonis en a écrit de très jolies, comme celle qu'on trouve dans son œuvre intitulée « Femme de légende », dont voici un extrait d'Esdemona, interprété par l'excellente Marie Vermelin. Desdemona, pièce extraite de Femme de légende, composée par Mel Bonis et interprétée par Marie Vermelin. Là aussi, c'est une des œuvres au programme du concert donné par la pianiste au cloître des Jacobins le 21 septembre. Il y a donc la jeune génération, il y a les pianistes mythiques tels que Christian Zacharias et Joaquín Achucaro, et puis il y a ce que j'appelle les valeurs sûres, les musiciens qui sont en pleine maturité, qui ont grosso modo entre 40 et 60 ans, et ils sont nombreux évidemment dans la programmation, à commencer par un Irlandais, Fingin Collins. Je ne pense pas qu'il soit très connu en France.
Non, pas du tout.
Bien qu'ancien lauréat lui aussi du concours Clara Askill. Et lui, il se produit au Jacobin le 16 septembre, alors avec un programme pléthorique. Il y a
un programme,
11 compositeurs
oui,
au programme.
Oui, oui. Et extrêmement original. Donc ça, je pense que c'est, je dirais, une des grandes singularités de piano Jacobin de permettre à des pianistes de s'exprimer avec ce type de programme. On avait eu déjà un pianiste américain qui avait fait un programme, alors là, j'ai un trou de mémoire, mais qui avait été extraordinaire sur toute l'histoire de la musique. Il était parti de pratiquement
la musique médiévale
jusqu'à la musique minimaliste américaine. Et voilà, et je pense que ce sont des voyages musicaux, des découvertes qui sont propres à enchanter le public des Jacobins.
Fingin Collins, le 16 septembre. Le 23 septembre, vous avez programmé au cloître un pianiste hispano-américain que j'avoue ne pas connaître non plus. Je ne sais pas trop comment on prononce son nom, donc je vais le prononcer.
Josu de Solon, oui.
Josu de Solon,
oui.
Qui va jouer un programme, alors lui, entièrement dédié à Brahms.
Oui, ça fait partie aussi de ses choix très pertinent de Catherine de tout d'un coup mettre en lumière comme ça un pianiste qui, en France, est passé, on va dire, sous les radars.
Oui.
Y compris sur les radars de la critique d'ailleurs. Et je pense que ça fait partie vraiment des découvertes passionnantes du festival, de voir un pianiste rare sur nos scènes musicales dans un programme Brahms. Donc on ne peut pas dire que ce soit un compositeur qui souffre d'ostracisme.
Non.
Mais je pense qu'il va amener une lumière particulière, une interprétation particulière, et je pense que ce sera un concert formidable.
Lui, donc, c'est le 23 septembre. Le 26 septembre, alors plus connu, le Québécois Marc-André Hamelin, qui va jouer des sonates de Bach et de Beethoven.
Qu'on est très heureux d'accueillir à nouveau, qu'on avait reçu il y a quelques années, qui est un immense musicien.
Et compositeur aussi.
Compositeur. Également, je trouve, totalement sous-estimé par la critique musicale en France.
En France, c'est certain.
À part les grands initiés, les grands connaisseurs. Mais nous le tenons avec Catherine pour un des plus grands interprètes vivants de sa génération, ça c'est sûr.
Je pense que c'est vrai aussi de la critique internationale concernant Hamelin. Souvent, c'est quelqu'un qui est vraiment très coté. Alors, le lendemain, il va y avoir un autre Britannique, vraiment un Anglais cette fois-ci, Stephen House.
Maintenant, Stephen House.
Sir, en plus, anobli.
Il a été anobli par la reine,
s'il vous plaît.
Au mois de juin, je crois. Donc c'est très récent et on est très heureux parce que je crois que Piano Jacobin est le premier festival à avoir invité en France il y a 35 ou 36 ans. Je n'ai pas vérifié la date avant de venir à cette interview. Donc il revient au festival. C'est un être d'une culture exceptionnelle, on pourrait presque dire encyclopédique, un esprit profond. Il a des choses qui me rappellent Liszt. Par exemple, il a failli embrasser la carrière ecclésiastique. Et puis finalement, il est revenu au piano. Donc, c'est un intellectuel d'une très grande exigence.
C'est une autre forme de sacerdoce.
Le piano est un sacerdoce.
Ah, oui,
ça, on est bien d'accord. Enfin, comme tous les instruments de musique, d'ailleurs. Hein.
Oui.
Mais en plus, il est compositeur. D'ailleurs.
Et en plus, il est compositeur.
Il est écrivain.
Oui. Il est écrivain. Il est considéré comme un immense intellectuel en Angleterre et qu'en Angleterre d'ailleurs. Et comme tous les Britanniques, c'est un homme qui a un humour délicieux, qui a une véritable empathie. Et je pense que le public va être vraiment très heureux de découvrir un musicien exceptionnel comme Stephen Huff.
Voilà,
Sir Stephen Huff.
Sir Stephen Huff. Il y aura du Chopin, du Scriabine, du Debussy, du Liszt et donc du
House. Sa partita.
Une émission consacrée à un festival de piano ne peut pas passer à côté de Frédéric Chopin, parce que c'est l'un des compositeurs qui a le plus écrit pour cet instrument. Voici donc son Nocturne opus 9 numéro 2, joué par Sir, je le précise maintenant, Stephen Huff. Thank you. Le Nocturne opus 9 numéro 2 de Frédéric Chopin, interprété par Sir Stephen Howth, une des œuvres que le pianiste britannique a intégrées au programme de son concert du 27 septembre au Jacobin. Et puis, pour conclure cette édition 2022, deux grands du piano actuel et deux fidèles du festival, Bertrand Chamaillou, le 29 septembre à la Halle au Grain, précisons-le, et Nelson Gurner, le 30 au Cloître des Jacobins. Alors concernant le premier, on a coutume de le présenter comme l'enfant du pays, puisqu'il est né à Toulouse et que c'est là qu'il a commencé sa formation musicale. Mais je me demande si ce n'est pas un peu aussi un enfant de piano jacobin, Bertrand Chamaillou. Il se trouve que je l'ai interviewé tout récemment, il y a 3 semaines, quelques jours avant son concert au Festival de Rocamadour. Je propose qu'on écoute un court extrait de l'entretien qu'il m'a accordé. Je lui demandais quelles étaient les personnes qui avaient compté pour lui dans sa formation de musicien et dans sa carrière. Voici ce qu'il m'a répondu après avoir rendu un hommage appuyé à Claudine Villotte, sa professeure au conservatoire de Toulouse.
Et puis ensuite, effectivement, les gens qui m'ont fait confiance très jeune, Catherine et Thierry Dargoubet à Toulouse. Thierry était pendant très longtemps, jusqu'à l'année dernière, s'est occupé de l'orchestre du Capitole de Toulouse. Catherine, les pianos jacobins, avec son collègue Paul-Arnaud Péjouan. Alors moi, ça a été des gens qui m'ont fait confiance très tôt. J'ai donné mon premier concert à l'âge de 15 ans au piano jacobin. Et puis, un de mes premiers concerts avec orchestre, je devais avoir 17 ou 18 ans, avec l'orchestre du Capitole de Toulouse, qui était dirigé à l'époque par Michel Plasson. Donc, c'est des gens qui ont été d'une très grande fidélité avec moi jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que tout est parti de là. Ça a été le point de départ, vraiment.
C'était Bertrand Chamaillou, lors d'une interview qu'il m'a accordée donc tout récemment. Alors, Paul-Arnaud Péjouan, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre?
Je suis ému.
C'est un peu fait pour, je l'avoue.
Mais bon, c'est vrai que Bertrand, je le dis parce qu'il l'a écrit, dans le programme, je crois, du 40e festival. Il nous a fait une lettre pour nous dire qu'il avait eu 2 formations musicales. Bien sûr, ses professeurs, à qui il a rendu hommage, celle que vous avez citée, Jean-François Isser, au CNSM à Paris. Et il a dit, après, j'ai eu une deuxième école, un peu différente, qui était piano jacobin, où ses parents l'ont amené très jeune. Je crois qu'il l'a amené, il avait 9 ou 10 ans. Et c'est vrai qu'on parlait de Vlado Perlemutter, on parlait de Gorgui Chandor, on parlait de tous ces Cherkaski.
Il les a tous cités pendant l'interview, voilà, en disant que ça avait beaucoup compté dans la formation de son goût musical.
Bien sûr, toutes ces légendes que Piano Jacobin a invitées au festival et a permis au public du cloître d'écouter, on avait été très émus avec Catherine qui nous écrive cette lettre, qui raconte cette éducation musicale, pour ne pas dire une éducation sentimentale, cette éducation musicale qu'il a eue avec le festival. Bon, Bertrand, à la grande époque, bon, piano jacobin, le festival occidental qui a été présent plus de 17 ans en Chine, ce qui est quand même exceptionnel. Aucun festival n'a duré plus de 2 ans en Chine, sauf piano jacobin. On a fait, je crois, plus de 250 concerts en 17 ans, et j'ai accompagné Bertrand en tournée en Chine, 3 ou 4 fois, je crois, et chaque fois des aventures humaines extraordinaires, parce que c'est un garçon
d'une remarquable,
très grande sincérité, et bon, c'est vrai que c'est toujours une chance d'avoir une relation à la fois très amicale et très professionnelle avec un artiste, d'avoir les deux côtés de sa personnalité, parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est un pianiste extrêmement impressionnant. Je me souviens de son intégrale des années de pèlerinage au cloître, qui avait été...
C'est légendaire. Là.
Légendaire, sidérante, pour ne pas dire sidérante. Le public était complètement en lévitation. Je n'ai pas pu aller, hélas, à Paris l'écouter dans l'intégrale...
Ravel, au Théâtre des Champs-Élysées.
Non, l'intégrale Messiaen.
Ah, Messiaen, récente. Parce qu'il avait fait aussi l'intégrale Ravel.
Mais des 20 regards de l'Enfant Jésus, tout le monde m'a dit que ça avait été absolument prodigieux.
L'enregistrement qu'il avait
fait. Magnifique.
Le disque était
récent. Et pour moi, c'est un pianiste vraiment qui est un immense pianiste et dont on a aussi le privilège, je voudrais dire, c'est un ami. Voilà.
Ouais, ouais. Donc il va jouer le 29 septembre, le programme qu'il a joué d'ailleurs à Rocamadour. Donc il y aura des extraits des années de pèlerinage de Liszt, la Suisse. Il y aura également, après une lecture du Dante et 3 sonnettes Pétrarque, la transcription que Liszt a faite d'un air de Parsifal de Wagner. Et puis il y aura des extraits, bien sûr, de ce disque merveilleux paru récemment sous le label Erato, 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen. Et puis donc le concert de clôture, ça va être avec l'excellent pianiste argentin Nelson Gurner, fidèle entre les fidèles, toujours très apprécié du public. Il va jouer quoi, lui, comme programme?
Alors, il joue les 4 ballades de Chopin. Donc, je pense que ça, le public est toujours ravi d'écouter un très grand pianiste dans ce répertoire. Et puis, Albéniz, qui maintenant est un compositeur, qui devient un peu un de ses compositeurs de prédilection. Et je pense que, bon, il est argentin, Nelson, donc oui. Il va... Et ça me permet aussi de faire un lien... parce que c'était une amitié exceptionnelle, presque filiale, qu'il avait avec Nelson Frère. Et nous avons tenu avec Catherine à faire la dédicace, cette 43e édition, à Nelson Frère et Nicolas Angelich, Deux pianistes, je dirais deux piliers du festival. Ça ne m'intéresse pas de dire combien de fois ils sont venus, mais ils faisaient vraiment partie de l'architecture musicale, artistique du festival. C'est pareil, ce sont des personnes avec lesquelles on a créé des relations amicales très profondes, très, très sincères, et on a été bouleversés par leur disparition. Et d'ailleurs, on a mis la dédicace sur la couverture du programme de cette année pour vraiment que le public sache tout ce que Jacobin leur doit et cette empreinte immortelle qu'ils laisseront dans l'histoire du piano.
Bien sûr, donc Nelson Gurner, en clôture du Festival Le 30, jouera les 4 ballades de Chopin et les cahiers 3 et 4 d'Iberia d'Isaac Albéniz. Encore un peu de musique dans cette émission grâce à Bertrand Chamaillou que nous allons écouter dans un extrait des années de pèlerinage de Franz Liszt. Il avait enregistré une superbe intégrale en 2011, vous l'avez rappelé. À la fin de son concert à Rocamadour, il a joué en bis les cloches de Genève, cette très jolie pièce que je vous propose d'écouter maintenant. Les cloches de Genève, extrait des années de pèlerinage de Franz Liszt, la Suisse, joué par Bertrand Chamaillou. Le pianiste toulousain est donc programmé à la Halle au Grain, hein, c'est pas au cloître des Jacobins, le 29 septembre à 20h, pour l'avant-dernier concert du Festival 2022, pour terminer une partie importante de la programmation que nous n'avons pas encore évoquée, c'est la partie piano jazz. Là aussi, c'est une tradition de piano jacobin depuis longtemps. Trois concerts cette année avec des cartes blanches données à Paul Lai le 10 septembre, Baptiste Trottignon le 24 au cloître des Jacobins. Entre-temps, il y aura eu le concert du Rémi Panossian Trio le 17 septembre à la salle du Métronome. Pas possible qu'il n'y ait pas de jazz piano jacobin, on est d'accord.
C'est absolument impossible, d'autant que vous le savez, notre mécène historique est la Fondation BNP Paribas, qui met particulièrement son accent sur le jazz et la création de jazz depuis une quinzaine d'années. Et donc, c'est un engagement que l'on a vis-à-vis d'elle. Et nous, on est soutenu pour cela aussi, en grande partie. Et puis, c'est aussi devenu une passion parce qu'on a toujours présenté du jazz régulièrement maintenant, depuis 15 ans au piano jacobin. Et là, ce sont trois amis du festival. On le disait tout à l'heure hors micro, ce sont des pianistes qu'on a amenés au Japon, qu'on a amenés en Chine, avec lesquels on a partagé des moments un petit peu extraordinaires. Paul Lai et Rémi Panossian, ils sont liés à Toulouse.
Ouais, ils sont passés par le conservatoire tous les deux.
Conservatoire.
Et Paul Lai est originaire de Tarbes.
Rémi Panossian vit à Toulouse, donc il n'aura pas beaucoup de kilomètres à faire pour faire son concert. Et on est très heureux d'ailleurs d'inaugurer notre partenariat avec le Métronome, qui est une salle de musique actuelle, qui est dirigée artistiquement par une ancienne du festival, une ancienne collaboratrice du festival, qui est Elvire Delagrange, donc que j'ai plaisir à retrouver dans cette mission. Et je pense que ça va nous permettre d'avoir un public différent. Et on va aussi faire une grande opération d'invitation auprès d'lycéens et d'étudiants pour ce concert. Et Baptiste Trottignon, qui est aussi un fidèle
lui il est venu je ne sais pas combien de fois.
Vraiment un fidèle du festival. On est toujours très très heureux de l'accueillir.
Voilà donc pour ce tour d'horizon de la riche et variée programmation du 43e Festival Piano Jacobin qui se tient cette année du 9 au 30 septembre. La plupart des concerts ont lieu au cloître des Jacobins et commencent à 20h. Mais attention, il y a quelques exceptions comme vous avez pu le constater. Je vous invite donc à consulter le site web du festival pour avoir tous les détails, pour vous renseigner et bien sûr pour réserver et acheter vos places en ligne. Il vous suffit pour ça de vous connecter à l'adresse www.pianojacobin.com. Tous mes remerciements à mes deux invités, à Serge Chosy de m'avoir assisté dans l'animation de ce numéro et à Paul-Arnaud Péjouan d'être venu nous présenter tous les artistes programmés à Piano Jacobin 2022. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, vous le savez Paul-Arnaud. Notez enfin que l'Orchestre de Chambre de Toulouse reprend ses concerts mensuels dès la semaine prochaine avec un programme Grieg, Sibelius, Holst et Elgar. Concerts les 13 et 14 septembre à l'Escale de Tournefeuille, puis les 15 et 16 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Tous commencent à 20h30. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Merci de votre fidélité à cette émission et excellente rentrée musicale à tous.